Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia. Dans cette édition, poursuite ici aux États-Unis de la campagne pour la présidentielle du 3 novembre, qui opposera le président sortant, le républicain Donald Trump, au démocrate Joe Biden. Dans quelques instants, une page spéciale sur les derniers échos de cette campagne, le vote anticipé et les risques de désinformation en période électorale, avec Jean-Roger Bion et John Linden. En Guinée, la CENI, l'organe chargé d'organiser les élections, a déclaré prématurée, nulle et de nul effet, la proclamation du candidat Sélou Dalène Diallo, selon laquelle ce dernier aurait battu le président sortant Alpha Condé dès le premier tour de la présidentielle du 18 octobre. Nous y reviendrons également avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara. En Côte d'Ivoire, une personne est morte et plusieurs ont été blessés lors de manifestations de l'opposition à 2 semaines de la présidentielle du 31 octobre. Nani Talani fera le point dans quelques instants également. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale s'est emparée lundi du dossier explosif de Minembwe au sud Kivu en interpellant le ministre de la décentralisation, Azarias Robertois, accusé d'avoir installé ou institué fin septembre cette commune et son issu de sa communauté Tutsi Banyamulenge aux lointaines origines rwandaises. Monsieur Robertois en a attribué plutôt la responsabilité au gouverneur de province. Le statut de Minembwe attise de vieilles méfiances envers le Rwanda voisin, des responsables politiques et des mouvements de la société civile, affirmant redouter que ça ne marque le début de la balkanisation de l'est du pays au profit du Rwanda. Le président Donald Trump a ouvert la voie lundi au retrait du Soudan de la liste américaine des États soutenant le terrorisme, un tournant aussitôt salué par Khartoum, qui réclamait la levée de cette lourde sanction en vigueur depuis près de 30 ans. Ce sera dès que Khartoum aura provisionné une somme de 335 millions de dollars pour indemniser les victimes des attentats de 1998 contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya. Omar el-Bashir, le président déchu du Soudan, avait accueilli dans les années 1990 Oussama Ben Laden d'Al-Qaïda à l'origine des attaques de 1998. Face au rebond inquiétant de la pandémie de COVID-19 dans une grande partie de l'Europe et aux États-Unis, le docteur Michael Ryan, directeur des questions d'urgence sanitaire à l'OMS, conseille de s'assurer que chacun des individus en contact avec un cas confirmé soit mis en quarantaine pour la durée nécessaire afin de casser la chaîne de transmission. Il ne croit pas que cela ait été fait ou que ce soit fait de façon systématique, une des raisons principales de chiffres si élevés. L'Irlande et le pays de Galles sont devenus lundi les premiers territoires en Europe à se résoudre à un confinement face à la deuxième vague de nouveaux coronavirus dans l'espoir de célébrer Noël correctement et de nouveaux tours de vis entrent aussi en vigueur en Belgique, Slovénie et Italie. En France, les autorités ont déclenché lundi une série d'opérations visant la mouvance islamiste et promis une guerre contre les ennemis de la République, 3 jours après la décapitation du professeur Samuel Paty pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mohammed, ce qui a donné lieu à de nouvelles arrestations et à la fermeture d'une mosquée près de Paris. La justice américaine a révélé lundi avoir inculpé 6 agents du renseignement militaire russe pour des cyberattaques mondiales qui ont notamment visé le parti d'Emmanuel Macron, le président français, avant les élections françaises 2017 et les Jeux olympiques de 2018 en Corée du Sud. Arméniens et Azerbaïdjanais se sont accusés de nouvelles attaques lundi. La trêve humanitaire censée être en vigueur la veille restant toujours lettre morte dans le conflit de la région séparatiste de Nagorno-Karabakh.
la suite de nos informations, nous commençons par la présidentielle du 3 novembre aux États-Unis. Le vote anticipé a débuté lundi en Floride, le plus grand des États clés de l'élection présidentielle du 3 novembre, où le président sortant, Donald Trump, républicain, et Joe Biden, son rival démocrate, sont au coude à coude dans les sondages. Le point avec Jean-Roger Dion.
Le président Trump a remobilisé ses troupes, s'efforçant de dissiper les éventuels doutes sur ses chances de victoire que pourrait susciter la lecture des sondages nationaux ou dans certains des swing states, ces États basculent où se jouera l'issue de son duel face à M. Biden et dont fait partie la Floride. « Nous allons gagner », a-t-il dit lors d'une réunion à distance avec des volontaires de ses équipes de campagne. « Je ne vous aurais peut-être pas dit la même chose il y a 2 ou 3 semaines. » M. Trump a même assuré qu'il se sentait en meilleure position pour l'emporter qu'il y a 4 ans, quand il avait battu la démocrate Hillary Clinton, déjouant la quasi-totalité des pronostics. « Nous bénéficions d'un élan au moment précis où nous le souhaitions », a dit son directeur de campagne, Bill Stepien, au cours de la même réunion dans l'Arizona. Le candidat démocrate Joe Biden n'avait, lui, aucun rendez-vous public lundi à son agenda, l'ancien vice-président américain consacrant la journée, selon la presse, à la préparation du dernier débat télévisé prévu jeudi. C'est la colistière de M. Biden, Kamala Harris, qui a fait le déplacement en Floride, renouant avec la campagne de terrain 4 jours après l'avoir suspendue en raison de cas de coronavirus dans son entourage. Elle s'est rendue à Orlando et à Jacksonville pour appeler à participer à ce vote en personne à l'avance. M. Biden s'est déjà lui-même rendu à 3 reprises dans cet État du Sud-Est, courtisant tout particulièrement les retraités, un électorat clé qui semble pencher en sa faveur après avoir majoritairement voté pour le républicain Trump il y a 4 ans. Pas moins de 29,6 millions d'électeurs ont déjà voté, soit par courrier, soit dans des bureaux de vote en avance, dans 44 États et le district de Columbia, c'est-à-dire la capitale Washington, d'après les dernières données diffusées par l'Université de Floride. Il y a 4 ans, au même moment de la campagne, seuls 5,6 millions de suffrages avaient été exprimés par anticipation en faveur de M. Trump ou de Mme Clinton. Au final et au total, 136,6 millions de voix avaient été enregistrées pour l'élection ayant abouti à la victoire du président républicain. Le niveau record observé pour la présidentielle de cette année s'explique notamment par l'épidémie de coronavirus et le souci d'une bonne partie des électeurs d'éviter tout risque de contamination dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
L'ampleur de la désinformation en période électorale rend encore plus difficile la recherche d'informations fiables, mais des entreprises de technologie essaient d'identifier les partis pris et aident les lecteurs à distinguer les vraies nouvelles des fausses. Reportage de Tina Trin, récit de John Lennon.
Entre Google, Facebook, Twitter et d'autres réseaux sociaux, beaucoup d'Américains peuvent être confrontés à une surcharge d'informations à l'approche du scrutin du 3 novembre. Et certaines informations ne sont pas exactes, ni même vraies. John Sands, directeur de la Fondation Knight.
8 Américains sur 10 craignent que la désinformation joue un rôle dans le résultat des élections.
Mais la plupart des Américains seraient-ils capables de repérer une activité de désinformation? Arlene Cao est PDG de Ground News.
Nous nous attendons à ce que le consommateur de nouvelles fasse réellement le travail et se demande, cette nouvelle est-elle vraie? Est-elle biaisée? N'est-ce pas?
Ground News se veut la première plateforme de comparaison de nouvelles au monde.
Disons que c'est un article politique à propos des élections. Nous allons vous montrer comment, de l'extrême gauche à l'extrême droite, l'histoire est couverte afin que vous puissiez comparer.
L'extension de navigateur de Ground News fournit cela immédiatement pour les nouvelles. En un seul clic, vous pouvez déterminer ce qui est disponible. John Gabel est cofondateur et PDG du site allsite.com.
Nous sommes tous biaisés, nous sommes biaisés par tout ce que nous savons, par notre expérience et par ce que nous ne savons pas.
Allsite.com, qui signifie tous les côtés ou tous les aspects, est un site fournissant des évaluations médiatiques. Il identifie les titres qui sont à gauche, au centre et à droite. Des chercheurs comme Samir Patil, professeur à l'Université d'Indiana, ont découvert des astuces supplémentaires pour aider à réduire la propagation de la désinformation.
Et cela n'a pas besoin d'être très long ou étendu. Juste une courte présentation qui dit, c'est peut-être discutable ou vous voudrez peut-être approfondir la question.
Selon lui, cette brève intervention agit comme un contrôle et réduit la tendance ou l'intention des gens à la partager. En fin de compte, une bonne dose de scepticisme est nécessaire. En cette saison électorale et au-delà, c'est une façon de séparer les vraies nouvelles des fausses.
Dans le reste de l'actualité, en Guinée, la Commission électorale nationale indépendante rappelle que seul son président est autorisé à donner des résultats globaux et provisoires. Une réaction en réponse à la déclaration de l'opposant Sélou Dalein Diallo, qui a annoncé lundi sa victoire à la présidentielle du 18 octobre. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant en Guinée.
C'est une situation inédite et sans précédent. Jamais pareil cas s'est produit en Guinée en plein processus électoral. À seulement quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, l'opposant Sélou Dalein Diallo, candidat pour la troisième fois, s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle du 18 octobre. Une sortie qui a fait réagir l'organe chargé des élections en Guinée. La CENI a organisé un point de presse à peine deux heures après la sortie du principal opposant au président Alpha Condé. Rappelant l'article 162 du Code électoral, Mamadi Troakaba, porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante, précise.
Donc, à ce stade, nous n'en sommes pas là encore. La CENI n'a pour l'instant donné aucun résultat. Elle le fera dès que les CACV, entendez, Commission administrative de centralisation des votes, enverront leurs résultats. Et la presse nationale et internationale sera conviée pour en informer l'opinion nationale et internationale.
Pendant des heures, des partisans de Sélou Dalein Diallo ont manifesté leur joie dans les rues de Conakry. Dans certains quartiers de la banlieue, des heurts ont été signalés entre manifestants et forces de l'ordre. Une jeune femme a été blessée par balle à Kosa, un PA saccagé à Amdalaye. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
En Côte d'Ivoire, une personne est morte et plusieurs autres ont été blessés lors de manifestations de l'opposition à deux semaines de l'élection présidentielle. Une mission de la CEDEAO appelle toutes les parties à faire des efforts considérables pour trouver un accord. Le point avec Nani Talani.
Il y a eu un mort et une dizaine de blessés, selon l'opposant Jean-Paul Amitié, maire de Bounoua, un ancien fief de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Deux jeunes manifestants avaient bloqué la route qui relie Abidjan au Ghana et ont été dispersés par les forces de l'ordre. Dans la matinée à Abidjan, il y a eu des échauffourées entre les forces de l'ordre et des étudiants en grève pour protester contre des frais scolaires et universitaires. Des incidents ont aussi été signalés à Dabou, à Divo et à Yamoussoukro. Déjà ce week-end, au moins deux personnes ont été tuées dans des affrontements à Bongwanou, fief du candidat Pascal Afinguesson, ancien premier ministre de Laurent Gbagbo. L'opposition a appelé le 15 octobre à boycotter les opérations électorales et la campagne. Elle estime que le président Alassane Ouattara n'a pas le droit de se présenter à un troisième mandat. Une mission de la CEDEAO, la deuxième en une semaine, conduite par la chef de la diplomatie ghanéenne, a rencontré dimanche et lundi le pouvoir et l'opposition pour les exhorter à faire des efforts considérables afin de parvenir à un accord avant une élection à haut risque le 31 octobre.
Au Nigeria, les manifestations de la jeunesse qui réclament désormais une meilleure gouvernance se sont poursuivies lundi dans un climat tendu à travers le pays. Le point avec Abdourahmane Dia.
Lagos, la capitale économique avec ses 20 millions d'habitants, est quasiment à l'arrêt. L'aéroport international de cette ville, épicentre de la contestation, et la majorité des axes routiers étaient bloqués hier, causant des embouteillages monstres. À Abuja, la capitale fédérale, des tensions ont aussi éclaté lundi entre manifestants et forces de l'ordre qui ont procédé à des tirs de gaz lacrymogène. Des incidents similaires s'étaient produits la veille et un manifestant avait perdu la vie. Depuis le week-end, ce sont au total 5 personnes qui ont été tuées selon l'ONG Amnesty International. Lundi, la situation a dégénéré à Benin City. Des groupes de jeunes armés, encore accusés d'être payés par des responsables politiques locaux, ont attaqué les manifestants. La contestation qui est née pour dénoncer les violences policières s'étend désormais à des revendications contre le pouvoir.
La Minute Éco, Nani Talani.
Au Gabon, la production pétrolière baissera de plus de 10,5 millions de tonnes, soit près de 210 000 barils par jour l'an prochain, selon le projet de loi de finances de 2021. Cette baisse sera aussi tributaire d'une meilleure adhésion aux coupes de production de l'OPEP. Le Gabon prévoit un prix du baril à 41 dollars en 2021 contre une prévision de 57 dollars en 2020. Le pétrole contribue à 38,5% au PIB gabonais selon le FMI. Le pays a produit 41 millions de barils de pétrole au premier semestre 2020. La Guinée a reçu 846 360 dollars de la BAD pour développer son secteur du miel dans les préfectures de Dabola, Kourossa et Farana. Ces fonds représentent 86,8% du coût total du projet contre une contrepartie de 13,2% du gouvernement guinéen. Le projet vise à restructurer les groupements apicoles, accroître les revenus des producteurs et améliorer les techniques de production et de transformation du miel pour un meilleur accès aux marchés régionaux et internationaux. Pour terminer, le FMI exhorte les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à accélérer les réformes et les efforts de diversification pour contrer les conséquences économiques du COVID-19 et la baisse des prix du pétrole. Nous devons considérer ce qui se passe aujourd'hui comme un appel à l'action, mais aussi comme une opportunité de stimuler la transformation de l'économie et de créer plus de postes jeunes, estime le FMI.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Deuxième demi-finale de la Coupe de la Confédération ce soir à Rabat au Maroc. Les Guinéens de Oroya vont en découdre avec les Égyptiens de Pyramide FC. Le vainqueur affrontera en finale la Renaissance sportive de Berkane qui a battu l'autre club marocain Hassania Agadir 2-1 hier à Casablanca. Mohamed Aziz a ouvert le score pour les Berkanis à la 20e sur pénalty avant qu'Imad Kimawi n'égalise à la 30e. C'est finalement à la 60e minute, encore sur pénalty, qu'Imad Kimawi a donné un avantage définitif à Berkane, qui se projette ainsi en finale. La finale aura lieu le 25 octobre prochain au stade de Rabat. En Europe, la Ligue des champions reprend ce soir, vice-champion d'Europe en titre. Le PSG entame sa nouvelle campagne contre Manchester United. Dans le groupe E, Rennes reçoit Krasnodar. À Londres, Chelsea et Séville vont se livrer un duel de favoris. Les Blues de Frank Lampard semblent mieux armés que le lauréat de la dernière Ligue Europa, mais la rencontre s'annonce très accrochée à Stamford Bridge. Le Borussia Dortmund se déplace à Rome pour affronter la Lazio. Plus tôt, le Zénith Saint-Pétersbourg accueillera les Belges du club Bruges. À suivre aussi Dynamo Kiev, Juventus Turin, FC Barcelone Ferencváros ou encore RB Leipzig Basak Seir. La Grèce a autorisé le retour dans les stades d'un nombre limité de supporters de football à partir de cette semaine, après 7 mois de huis clos en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. La rencontre de Ligue des champions entre l'Olympiakos et l'Olympique de Marseille mercredi au Pirée sera la première concernée par cet assouplissement avec la présence de 3500 supporters. Le match de Ligue Europa entre le PAOK et les Chypriotes d'Omonia Nicosie accueillera également du public jeudi à Thessalonique. L'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas vont déposer une candidature commune pour l'organisation du Mondial 2027 de football féminin, a annoncé la Fédération allemande. La date d'attribution du Mondial 2027
n'est pas encore connu. Les ambassadrices de la campagne qui va s'ouvrir seront trois anciennes joueuses emblématiques des trois nations, Sylvia Ned pour l'Allemagne, Femke Maes pour la Belgique et Sarina Wiegman pour les Pays-Bas. L'Allemagne accueillera en 2024 l'euro masculin. Les Pays-Bas ont déjà organisé l'euro féminin en 2017. La Belgique n'a encore jamais accueilli de tournoi majeur féminin.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la prestation de serment de trois juges constitutionnels est au centre d'une crise au sein de la coalition dirigeante CASH-FCC. La présidente de la République annonce pour mercredi la cérémonie, mais le PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila, demande au Premier ministre de ne pas l'organiser pour violation de la Constitution. Idi Isango a joint à Kinshasa le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere.
De telles nominations, la loi, l'article 4 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, l'article 4 est clair. Les nominations qui violent les articles 2 et 3, qui n'ont repris que l'article 158 de la Constitution, sont nuls de plein droit, ça veut dire sont nuls et de nul effet, sont nuls et de nullité absolue, comme on dit en droit. Notre président de la République veille foncer dans l'erreur, continuer dans l'erreur, malgré tout ce que nous avons fait comme effort pour lui demander que nous sommes dans la coalition, que nous sommes dans un régime parlementaire qui demande qu'il y ait dans la séparation du pouvoir, l'équilibre du pouvoir, demande qu'il y ait collaboration entre le pouvoir, entre les institutions. Là, on a dit, c'est une ligne rouge, nous n'allons plus traverser. On a toléré plusieurs violations qui se sont succédées, mais ici, c'est la ligne droite que le PPRD, en tant qu'un parti démocrate, ne peut pas accepter, parce que sinon, s'accepter de rentrer vraiment à plein pied dans une dictature qui ne dit pas son nom.
D'après vous, que doit faire le Premier ministre maintenant? Il est du PPRD ou du FCC, il a reçu cette injonction du président de la République, ainsi que les ministres en relation avec les parlements. Que doivent-ils faire?
L'article 10 dit que, avant d'entrer en fonction, les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle sont présentés à la nation, devant le président de la République, devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat et devant le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son bureau. Donc, on comprend que c'est devant l'Assemblée nationale que doit venir le président. Le Premier ministre et les ministres des relations avec le Parlement n'ont aucun rôle. Ce ne sont pas eux qui doivent jouer le protocole ni de l'Assemblée, ni du président de la République. Ils n'ont aucun rôle à jouer dans la prestation, dans une cérémonie de prestation des serments des juges constitutionnels. Nous leur demandons, nous les encourageons à s'abstenir tout simplement.
Ne va-t-on pas là droit vers une crise institutionnelle? Tant crainte pour que le Parlement tombe.
On sent qu'il y a une certaine volonté de vouloir créer une crise et nous nous demandons en tant que PPRD, mais pourquoi le président de la République, lui qui est le garant du bon fonctionnement, voudrait bien amener une crise qui vient de longues guerres, qui vient d'un processus assez long, démocratique, un processus électoral assez long et délicat, qui voudrait aujourd'hui replonger par les simples caprices de vouloir contrôler la Cour seule contre en violation de la Constitution, replonger le pays dans la crise.
Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Sénégal, la tendance baissière des cas de COVID-19 a incité le gouverneur de la région de Dakar à autoriser la réouverture des restaurants, boîtes de nuit et autres salles de spectacle. Une autorisation bien accueillie mais difficile à appliquer dans les conditions actuelles selon certains professionnels du milieu. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Le premier samedi ayant suivi la réouverture des lieux de loisirs n'a pas été aussi mouvementé qu'attendu. Dans la banlieue de Dakar, la reprise n'a pas encore été actée dans la majorité des boîtes de nuit à cause du bouleversement causé par le COVID-19. Amdi Ridial, artiste-compositeur, explique.
Pour l'instant, bon, ça peut être un peu compliqué parce que on a perdu beaucoup de contrats, on avait organisé beaucoup de soirées, mais finalement, avec le COVID-19, on n'a pas pu réaliser tout ça. Mais actuellement, bon, on compte juste organiser des choses encore, bon. Mais je pense pas qu'on pourra gagner comme avant. Et parce qu'actuellement, c'est compliqué, il n'y a pas d'argent, les moyens, bon. Parce que d'habitude, nos soirées qu'on organise, les entrées, c'est à 5000 francs, VIP 10 000.
Du côté des gérants de boîtes de nuit, les contrats sont peu, à côté du casse-tête que constitue le respect des mesures barrières dans les enceintes. Pour ces gérants expérimentés ayant requis l'anonymat, c'est tout simplement impossible de procéder au respect de ces mesures dans certaines conditions.
Le milieu dans lequel nous sommes, on parle de boîte et qui dit boîte dit publicité, dit les gens qui viennent chaque jour, le bouche à oreille, le fait. Donc, il y a cette peur qui règne. Vu que toutes les mesures barrières, les gens essaient même de les respecter, mais ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Ils vont faire ouvrir les salles qui prennent moins de 500 personnes. Moins de 500 personnes, c'est beaucoup de monde déjà. Et pour respecter ces mesures barrières, dans les boîtes, c'est impossible. C'est quasi impossible.
Certains habitués des salles de spectacle ne sont pas ébranlés par les craintes exprimées par les professionnels du milieu. Pour Major Fall, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir, quel que soit le coût ou les conditions.
Même si le coronavirus est là, les Sénégalais n'ont pas peur, on dirait. Les boîtes vont se remplir comme avant, malgré tout ce qui se dit. Les tarifs n'ont pas encore changé et varient entre 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 et 100 000 francs. Les boîtes vont récupérer l'argent perdu parce que ceux qui fréquentent les boîtes de nuit, comme moi, sont pressés de voir la réouverture être définitive.
La décision du gouverneur de Dakar permet certes la réouverture des lieux de loisirs, mais beaucoup de professionnels du milieu sont encore loin de voir le bout du tunnel. Entre les conditions sanitaires fixées par les autorités, la révision des contrats et la mise en place d'une grille tarifaire adaptée à la crise, le chemin paraît encore long. À Dakar, Seyrina Bagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Cameroun, les populations des zones forestières du département du Cam, dans la région du littoral, craignent de ne plus pouvoir exploiter les produits forestiers non lignes. Ces produits désignent toutes les matières biologiques, à l'exception du bois, qu'une communauté tire de la forêt pour se nourrir, se soigner ou à des fins commerciales. Les communautés riveraines d'un vaste massif forestier dénommé Forêt des Baux sont plus inquiets sur le devenir des produits forestiers non ligneux. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Mamba est un petit village de l'arrondissement d'Uncam, difficile d'accès surtout en cette saison pluvieuse. Le village est situé au cœur d'une forêt dense. Des jeunes, à l'instar de Samuel Yumba, tire des ressources de cette forêt depuis 11 ans.
Tous les produits nous aident ici beaucoup. Des écorces qui nous aident à se soigner. Je sais que si je suis malade, il y a du coromant à côté. Je sais qu'il y a, il y a un arbre jaune là, c'est pour mélanger quand j'ai de la fièvre.
L'utilité de la forêt du village Mamba est aussi capitale pour Pierre Claver Mbédé. Il est un jeune cultivateur.
Nous n'avons pas trop besoin d'aller nous faire traiter à l'hôpital. Nous avons des écorces à gauche et à droite que nous exploitons par rapport à notre santé et l'agriculture nous en sert. Détruire tout ce que je vois de beau là, bien là, non? En faisant mon champ de poivre, le champ d'arachide, manioc, c'est bien l'exploitation. Ce que nous voulons, c'est que l'État ou les gouvernants nous entretiennent la route.
Les épices, les huiles essentielles, le rotin, les bambous, la production piscicole dans les forêts marécageuses et les mangroves sont autant de produits forestiers non ligneux que l'on retrouve dans les forêts du département d'Uncam. Le département d'Uncam est l'un des plus enclavés du Cameroun. Les autorités traditionnelles, les élites et les autres communautés se déchirent au sujet des projets de conservation des forêts ou de leur exploitation par les agro-industries dans ce département. Joseph Désiré Messina, notable dans le village Mamba.
On n'a pas de route, on n'a pas de pont, on n'a rien, école rien, hôpital rien, l'eau rien. Comment vous allez exploiter le village alors qu'il en manque de route et de pont?
Pierre Titil, notable dans le canton Ndik Biakat, dans le département d'Uncam, semble plus susceptible et se montre favorable à la conservation de la biodiversité.
Si une fois veut venir, que les gens viennent. On essaye de parler. On écarte ces zones de conservation. On essaye de voir.
Les villes de Douala et Yaoundé sont les deux plus gros marchés de vente des produits forestiers non lignés au Cameroun. Les semestriels sont estimés à plus de 100 millions de francs CFA. Yaoundé, Emmanuel Chiluta, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédounia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.